doctorante avec Lina Torgalova. Je suis également enseignante en mathématiques et sciences physiques dans un centre de formation d'apprentis avec des BTS du secteur industriel. Ici, je présente une partie de mon travail de thèse dont l'objet d'étude est la créativité sociale. Donc, je vais présenter la méthodologie pour l'étude de la créativité sociale lors de la conception collaborative d'un nouveau genre de ressources numériques. Donc, cette conception collaborative est effectuée dans le cadre du projet européen MC². Ce projet a pour objectif le développement d'un nouvel environnement technologique numérique appelé Cyborg Technologies. Donc, c'est un outil de conception de ressources plus un outil qui permet la communication et la récupération des données de la conception. L'étude de la conception et de la production de livres créatifs, qu'on appelle des C-books, qui ont pour but de développer la pensée mathématique créatrice de leurs utilisateurs, ce sont des livres qui incluent des applications interactives et qui sont numériques. La pensée mathématique créatrice des utilisateurs de ces livres fait l'objet d'études dans une autre thèse, donc je ne développerai pas du tout cet aspect-là dans la présentation. Donc, cette conception, elle se fait dans un groupe hétérogène dont l'hétérogénéité est basée sur le domaine professionnel. On a des enseignants du second degré, des formateurs d'enseignants, des chercheurs en éducation mathématique, on a un artiste et d'autres domaines professionnels dans notre collectif. Ce collectif, c'est une communauté parce que les membres sont unis par des liens d'intérêt. Et c'est une communauté d'intérêt, c'est quelque chose qui a été imposé par le projet parce que, d'après Fischer, les communautés d'intérêt sont plus créatives que les communautés de pratique définies par Wenger. Et donc, la communauté d'intérêt est constituée autour de communautés de pratique. La créativité sociale, on l'a définie opérationnellement comme étant la génération d'idées qui proviennent de la combinaison d'un ou de plusieurs systèmes d'activités individuelles qui résultent de diverses interactions entre les membres de notre communauté et l'environnement technique et ses outils. Elles sont externalisées, ces idées, grâce à des artefacts ou d'autres objets frontières ou des ressources. Et ces idées sont considérées comme créatives. Ce qui est important pour nous, c'est qu'elles sont nouvelles, appropriées et utilisables. Donc ce critère-là est très important parce que c'est ce qui nous permet de voter et de savoir si une idée, elle va être créative ou non. On se base sur la créativité petit c, Simon Tom, de la créativité, la capacité aux individus normaux à générer de nouvelles stratégies ou quelque chose de nouveau pour eux. La communauté d'intérêt française est constituée de plusieurs groupes et je travaille particulièrement avec trois de ces COP, comités de pratique, deux COP qui sont des groupes IREM, un de Grenoble et de Lyon, et la start-up Epsilon Writer qui développe un logiciel d'algèbre dynamique et d'autres outils de communication pour les mathématiques. Mes questions de recherche, la première, c'est d'interroger la relation entre les membres de la COI et de la COP et comment ces relations contribuent à stimuler la créativité sociale parmi les membres de la COI et dans quelle mesure. La seconde question de recherche liée au projet, toujours, c'est quel type de créativité sociale nous pouvons identifier. Pour répondre à ces questions, dans le projet, il a été élaboré une méthodologie en 5 niveaux. Le premier niveau permet de mesurer la créativité sociale et de définir différents types. Le second niveau permet de repérer les idées créatives et de les mesurer, de leur donner un poids. Le troisième niveau permet d'identifier les phases du processus de conception. Quatrième niveau permet d'étudier la trajectoire des idées créatives. Et le dernier niveau, il permet d'étudier les moments de rupture, ce qu'on appelle les épisodes critiques, lors de la conception. Enfin, une question de recherche qui est plus liée à ma thèse, et je m'intéresse à la façon dont la pratique et les connaissances professionnelles des enseignants, parce que c'est vraiment des enseignants de mathématiques, soit du second degré, soit des formateurs enseignants, comment ces connaissances professionnelles vont impacter la conception de ces CIBOOC. Et en retour, je vais regarder quel va être l'impact de la conception sur les connaissances professionnelles et la pratique de ces enseignants. Mon travail se focalise pas sur tous les membres de la COI, mais sur les enseignants de la COI. Pour cela, j'ai mis quelques éléments du 4H théorique. Donc, au niveau de la créativité sociale, je me sers de la notion de divergence, de pensée divergente, qui sont l'apparition d'idées nouvelles et la convergence lorsqu'on les juge appropriées et utiles. L'approche documentaire me permet de regarder les ressources, les systèmes de ressources, la dissémination des connaissances à travers ces ressources. La théorie des objets frontières me permet de chercher quels sont les objets qui vont permettre de passer d'un monde professionnel à un autre, quelles personnes vont pouvoir faire le lien entre ces mondes professionnels, les mécanismes et les processus qui vont s'opérer à ces frontières, la coordination, la communication, les réflexions et les transformations. Le modèle TIPAC, il me permet de modéliser les connaissances professionnelles des enseignants avec la technologie et il va me permettre de regarder comment ces connaissances impactent la conception et inversement, comment la conception va impacter la connaissance des enseignants. Je vous présente une étude détaillée du niveau 3, c'est-à-dire l'étude des processus de conception. Ici, on a la représentation sous forme de carte heuristique de notre outil de communication qui nous sert également de journal de bord, qui est CoiCode. Et pour la conception d'un livre en particulier, qui s'appelle « Style randonnée », il y avait un petit groupe de concepteurs. Donc le petit groupe de concepteurs, je l'ai représenté ici, il est constitué de Zoé, Jack et Paul autour de ce CIBOOC qu'on appelle Ski. C'est le noyau principal. Ensuite, il y a eu des interactions assez fortes entre ces trois concepteurs. Ensuite, d'autres membres de la COIP, représentés par le trait bleu, sont intervenus. Léo, très fortement avec Jack et un peu moins fortement avec Paul et Zoé. Nick est intervenu, mais au niveau du CIBOOC, pas au niveau des membres, mais par rapport au livre. Et Pierre, qui est en périphérie de notre communauté de pratique, est intervenu par rapport à la conception de ce livre de façon très légère. À partir du recueil des données que nous avons eu dans CoiCode, on a pu automatiquement constituer le flux journalier des idées. À partir de ce flux journalier, l'objectif était de reconstruire les processus des étapes de la conception. Donc, il nous sert à la construction et à l'étude d'une partie du cycle de vie de notre ressource et il va nous permettre d'étudier grâce à la théorie des objets frontières les interactions entre les concepteurs. Donc les différentes étapes que j'ai pu repérer grâce au flux journalier. Alors la première, elle n'apparaît pas sur ce flux, elle est en dehors, c'était le choix du CIBOOC. Le CIBOOC a été choisi à partir de ressources. Le thème du CIBOOC a été choisi à partir de ressources qui appartiennent au système personnel d'un des membres de la communauté qui est Zoé. Et ça permet de constituer la ressource zéro de notre livre. Et je n'ai pas d'éléments ici à présenter sur cette ressource zéro. Mais elle est constituée d'un ensemble de ressources mères qui appartiennent au système personnel de ressources de Zoé. La première étape du cycle de vie de notre ressource, ça a été la transposition de ces ressources dans CoiCode. Donc Zoé a fait un choix sur les ressources qu'elle a transposées et ça constitue la description dans l'espace de travail Ski de sa perception de elle a transposé ce qu'elle voulait montrer et nous faire comprendre dans notre outil de communication. Cette description, elle constitue la ressource numéro 1 et elle va servir, grâce à Coicode, d'objet frontière pour permettre aux autres membres de comprendre et de s'approprier cette ressource et de pouvoir négocier de nouvelles orientations pour la conception. Et une nouvelle perspective également. Ensuite, la deuxième étape, ça a été un brainstorming synchrone pour savoir quels étaient les axes qu'on voulait choisir pour développer cette ressource et comment on souhaitait l'organiser et quelle idée de scénario. Alors, le scénario, c'est l'histoire qu'on voulait raconter dans ce livre et les activités qu'on pouvait raccrocher à cette histoire. C'est dans ce sens-là que j'emploie le mot de scénario. C'est vraiment l'histoire que raconte le livre et les activités que permettent de rattacher cette histoire. Donc cette nouvelle version, une fois qu'il y a eu une phase de convergence, c'est ce que j'appelle la ressource numéro 2. Et pareil, elle devient un objet frontière. Elle rend explicite les orientations prises par la conception et elle va permettre d'effectuer un travail conjoint continu de transformation. L'étape 3, elle est constituée, c'est la plus longue étape du processus de conception. Elle est constituée par des phases de divergence et de convergence successives qui sont des allers-retours entre les concepteurs, des phases de divergence où on émet des idées, des phases de convergence où on va réaliser un certain nombre de choses pour créer notre première version du CBook. Et cette première version, ça va être la ressource V3 et elle devient elle-même un objet frontière et elle va faire également l'objet de transformation pour donner une nouvelle ressource qui est la ressource V4 qui intervient à la suite d'une révision par l'ensemble des membres de la COIT. L'ensemble des membres de la COIT, lors d'une réunion, a regardé cette première version du CBook, a interagi, donné des idées et ensuite, il y a une négociation du scénario du CBook, des activités qu'on voulait garder, des idées que le membre de la COI avait apportées et qu'on voulait conserver, et une deuxième révision entre. Voilà, ça a donné la deuxième version du CBook, qui devient également un objet frontière. Ensuite, il y a eu une deuxième révision de ce nouvel objet par les membres de la COI aussi et par Zoé et Jack qui ont conduit à quelques modifications partielles du CBook, mais ça a été des révisions mineures. Et ensuite ce CBook il est rentré dans le système de ressources de la COI puisque la conception au sein de la COI s'est arrêtée à ce moment-là. Voilà. Donc pour repérer ces phases de conception, on a essayé de repérer dans la conception des phases de divergence où des idées nouvelles étaient émises et des phases de convergence où on avait le sentiment qu'il y avait validation de certaines idées et des choix arrêtés pour la conception. Voilà comment on a repéré ces différentes phases. Ceci nous permet donc de constituer le cycle de vie de la ressource et je vais donner quelques contraintes contextuelles qui ont orienté la conception de cette ressource. Donc la ressource V1, celle qui apparaît dans la COI, c'est la transposition des ressources de Zoé dans notre outil de recueil de données. La situation géographique des concepteurs, c'est la région Grenoble, c'est une région où on fait du ski. Ça nous a permis de valider le choix du thème de ce CBook sur le ski, et plus particulièrement le ski de randonnée. Ensuite, la disponibilité de la technologie CBook nous a fait faire des choix où on a eu envie d'utiliser les possibilités données par cette technologie. C'est ce qui a donné envie à Zoé aussi de transposer ses ressources dans cette technologie. Parce qu'elle avait envie d'utiliser ce qu'offrait la technologie. Ensuite, sur la version V2, ce qui est intervenu au niveau du contexte c'est que le niveau scolaire et le contexte d'enseignement de l'enseignant testeur, c'était le niveau seconde. Donc ça, ça a impacté sur le choix du niveau pour l'utilisation du CBook. Donc en fait, on a choisi des domaines du contenu mathématique qui pouvaient correspondre à des élèves de seconde, et on a aussi un petit peu élargi vers des élèves de première terminale. Au niveau technologique, ben, l'expertise technique d'un des concepteurs de Léo et la familiarité de Jack avec la technologie CBook a aussi impacté sur les apports technologiques et l'enrichissement technique de la ressource. Voilà les principaux éléments de contexte que j'ai pu mettre en évidence. Et donc, cette ressource, il y a une sixième étape que je n'avais pas présentée avant parce qu'elle va se faire en dehors de la colle. Cette ressource, elle a été utilisée avec des élèves de seconde, expérimentés. Pour cette expérimentation, au niveau de la conception, il y a eu des petits changements liés à l'usage de la ressource. Et le cycle de vie sera terminé quand elle réintégrera le système de ressources de Zoé. Si une partie du cycle de vie de cette ressource m'a permis aussi de donner quelques exemples des connaissances professionnelles des concepteurs et de l'application dont je fais du modèle TIPAC. Pour ma thèse, je vais me concentrer uniquement sur les connaissances professionnelles de Zoé, mais là j'ai mis quelques exemples de connaissances professionnelles que j'ai pu relever par rapport à certains choix de conception. Donc, par exemple, Zoé, au niveau pédagogique, sur la ligne 2, a dit à un moment, ben, il faut faire suivre la vidéo d'un questionnaire. C'est une connaissance professionnelle parce qu'elle est là pour motiver les élèves. Donc, au niveau pédagogique, une autre connaissance que j'ai pu repérer, c'est en termes de contenu. Nick a demandé à un moment, ben, pourquoi ne pas mettre des suites numériques? Comme on était sur le ski, on parlait de la neige, et on savait qu'il y a un flocon, une étude mathématique sur les flocons de Van Cork qui a été travaillée. Donc c'était une opportunité de travailler les suites numériques grâce à cette relation avec le contexte. Par exemple, lorsqu'on fait du ski de randonnée, la recherche de victimes en avalanche et de porter un arva, c'est important. Donc, il y a eu une remarque au niveau de la conception qui disait « Recherche une victime d'avalanche en utilisant GeoGebra et en obtenant le meilleur score », qui est la combinaison de la technologie, de la pédagogie et du contenu, puisqu'il faut connaître le logiciel GeoGebra pour pouvoir créer cette activité. Le fait que ce soit quelque chose de réel est là, d'un point de vue pédagogique, pour motiver les élèves. Et il faut connaître aussi les algorithmes en croix pour savoir que c'est l'algorithme le plus efficace pour retrouver une victime et qui permettra d'atteindre le meilleur score dans le jeu. Les perspectives et les réflexions, il va falloir que je systématise l'analyse des connaissances professionnelles de Zoé en lien avec l'étude du cycle de vie de la ressource pour pouvoir répondre à ma question 3 de recherche, et puis étudier ainsi également les évolutions des connaissances professionnelles et de sa pratique dans la conception. Merci.
Bien, merci Nathalie. Donc on a 20 minutes de discussion. Questions? Alors, peut-être Nathalie, est-ce que tu pourrais présenter un peu plus CoiCode?
Oui, alors CoiCode, c'est...
Tu peux montrer ou...
Oui, il faut que je retourne en arrière. Alors, comment je fais? Précédent. Précédent. Je vais aller directement là.
Expertise.
Ce sera plus simple. Voilà. Donc, voici CoiCode. Donc, CoiCode, c'est un outil qui permet... c'est un outil où on peut mettre des postes. Chaque poste correspond à un nœud. Et en fait, on a instrumentalisé la ressource pour qu'on ait une utilisation qui nous permette de recueillir des données. Donc, une contribution, c'est une pièce de puzzle. Quand une personne a une idée et qu'elle n'est pas reliée à une autre idée, il va commencer un arbre, il va poser une pièce de puzzle. Il peut donner une solution alternative, il peut émettre une objection, mais on a dit que chaque fois qu'on avait une idée nouvelle qui n'avait rien à voir avec les autres, on commençait un nouvel arbre. À ces nœuds, on peut attacher des fichiers, des liens URL pour être plus explicite par rapport à ce qu'on veut dire. Et donc, on peut également voter pour une idée. Pour chaque nœud, on a la possibilité de voter pour dire si l'idée qui est mise dans le nœud, puisque pour nous, un poste correspond à une idée, donc dans un poste, on avait pour consigne de ne mettre qu'une seule idée. Et si on avait plusieurs idées, de faire plusieurs postes. Et donc on peut voter pour une idée en disant si elle était nouvelle, appropriée et utilisable pour le CBook. Chaque espace, pour un espace comme ça, correspond à une conception d'un livre. Et en fait, on a autant d'espace que de livres conçus. Voilà.
Les nœuds, oui. C'est quoi là, dans le dessin?
Lequel?
Les nœuds, en fait, c'est n'importe lequel. Les verts, les rouges, ça veut dire.
Est-ce que tu veux te connecter, Nathalie, pour montrer
le vert, ça veut dire que on est plutôt d'accord. Et rouge, c'est quand on émet une objection, c'est quelque chose. Voilà, c'est pour souligner une objection par rapport à une idée.
Mais finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque nœud, en fait, c'est une fenêtre dans laquelle on exprime les idées des conceptions.
Oui.
C'est-à-dire, on dit, voilà, par exemple, j'aimerais bien utiliser GeoGebra pour simuler, par exemple, une avalanche.
Oui.
D'accord ? Donc, il y a l'idée qui est émise par un concepteur, et donc, du coup, il y a un autre qui peut dire « Ah oui, ça, c'est une très bonne idée, on pourrait faire comme ça.
Voilà. »
Et il poste un nouveau nœud en lien avec le nœud précédent.
En fait, si on peut répondre à un nœud...
C'est l'église, c'est l'église.
Oui. Le nœud s'ouvre, ça ouvre une fenêtre texte, et donc on peut taper un texte, et puis si on veut, on peut ajouter des fichiers, ajouter des liens URL au poste. Et puis si on veut répondre directement à une idée, on a juste à cliquer sur le plus du nœud pour pouvoir. Et le nœud va se mettre automatiquement sous l'autre.
Est-ce qu'on peut comparer ça à un nouveau fil de discussion sur un forum, par exemple, en se disant c'est comme tout un nouveau fil de discussion pour une nouvelle idée?
Oui, parce qu'en plus, là c'est la vue en caractéristique, mais on peut avoir la vue en forum. C'est-à-dire que tout ce qui est là, on a la vue. Yana, il y a Facebook qui est ouverte, si tu veux montrer sur l'ordinateur. Il y a le Facebook qui est ouvert, là. Et on peut avoir la
vue.
Tu peux montrer. Sur... Parce qu'on peut montrer la vue en forum, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une carte comme ça, on peut
se connecter sur le DME.
Oui.
Sur le
DME. Parce que moi, la fenêtre était ouverte. Voilà. Et en fait, pour relire et pour traiter les données, c'est beaucoup plus facile de travailler avec le forum que de travailler avec la caractéristique. Par contre, pour s'y retrouver dans la conception, pour réagir, on a plutôt travaillé avec la caractéristique. Mais en tant que chercheur, j'ai plus travaillé après pour regarder les données sur la vue en forum.
Je vais te connecter avec toi. Oui.
Est-ce que vous voyez l'écran là?
Oui.
Ça va. Ouais.
Voilà, je vais vous montrer.
Ah oui, c'est ça.
Oui. C'est pas le
Voilà. Donc, voilà, ici on a différents espaces de travail. Donc, ce qui est ici.
C'est un peu tronqué la projection, mais bon, c'est pas grave.
Voilà, donc là, ça met, il faut un petit peu de temps pour charger.
Et donc là, ce qui apparaît, c'est le nom de contributeur en rouge, voilà. La date où il a émis l'idée.
Et le titre de l'idée.
Et le titre en vert de l'idée.
D'accord.
Et quand on clique dessus, on peut voir afficher l'idée exprimée par le concepteur.
Oui, il suffit de survoler pour avoir l'idée. Et là, on a une vue générale.
Donc arrêtez, là tu fais arrêter le script.
Si je fais arrêter, ça va pas continuer.
Si, ça va continuer.
Ah.
C'est le script que je ne comprends pas, mais normalement, ça continue. Voilà, c'est juste long pour afficher.
Et donc là, si je survole le nœud, voilà, on voit ce qui a été fait.
Est-ce que tu peux lire? Enfin, commenter ce qui apparaît, parce que je ne sais pas si on peut le voir.
Alors, illustration par une photo montrant une pente enneigée avec du sucre cristallisé de la farine d'environ 30 degrés. C'est la transposition de Zoé dans Coécode.
Et on voit qu'elle a affiché une image.
Oui.
Donc un skieur traverse.
Voilà, et on voit qu'on peut avoir accès à l'image si je clique dessus.
Okay. C'est facile d'utilisation, ça, pour les enseignants, il faut un temps de formation pour qu'ils se l'approprient.
Donc, il faut un temps d'appropriation pour que les membres se l'approprient. Et là, dans le travail que j'ai fait avec les enseignants, je n'ai pas utilisé Coécode. Parce que s'il faut un temps, je n'ai pas suffisamment de temps pour que les enseignants puissent s'approprier.
C'est-à-dire que toi, tu as traduit ce que disaient les enseignants sur Coécode.
Je vais le traduire. J'ai enregistré et je vais le traduire.
Non, mais il faut aussi comprendre que c'est un outil pour les membres de la communauté d'intérêt.
Oui.
Et les enseignants ne sont pas membres de la communauté d'intérêt. Donc, ils ne sont pas supposés utiliser cet outil-là.
Par contre, Zoé, dans la présentation que je vous ai faite, que je vais étudier, elle fait partie de la communauté d'intérêt. Donc... Elle a posté cette image et donc elle a interagi, mais il faut un peu de temps, il a fallu un petit moment, un peu du temps pour pouvoir utiliser et s'approprier.
Alors la communauté d'intérêt, en fait, elle rencontre plusieurs communautés de pratique autour, comme les étapes d'une marguerite, et la communauté d'intérêt, c'est le centre. Est-ce que tu pourrais juste distinguer ce que tu entends par communauté d'intérêt et communauté de pratique?
Alors, par exemple, le groupe IREM de Grenoble, c'est une communauté de pratique. C'est les enseignants de mathématiques avec un chercheur qui travaille sur la création et la production de ressources en mathématiques sur un contenu bien particulier qui est l'algèbre. Voilà, ça c'est une communauté de pratique. La communauté d'intérêt, elle est fermée de personnes qui ont divers domaines professionnels. Et la communauté d'intérêt, elle est construite avec des techniciens qui sont plus informaticiens, avec un artiste qui a des liens avec les mathématiques, mais qui n'est pas en tout cas pas de lien avec forcément l'éducation, des enseignants, des chercheurs. Voilà, c'est des domaines professionnels qui sont assez différents.
Ok.
Et qui sont reliés par les mathématiques, mais qui sont différents.
Ouais. Et qui sont réunis autour de la conception de Cbook.
Voilà, l'intérêt commun, c'est la production de Cbook. C'est l'intérêt commun à
et qui ne correspond pas à des pratiques communes.
Non, qui ne correspond pas exactement à des pratiques différentes. Donc je disais, donc là on peut le voir, on a la carte heuristique, mais on peut avoir une vue en forum. Et la vue en forum... Et pratique
aussi.
Il faut
juste aussi. Être
patient. Comment ?
Il faut juste être patient.
Oui, il faut juste être patient. Voilà, c'est la vue en forum. Alors, ça n'a pas complètement chargé. Les étoiles sont grises, ça veut dire que ça correspond à mes votes. Ça veut dire que j'ai bien voté pour les idées qui ont été exprimées, elle reste jaune quand je n'ai pas voté pour une idée. Donc ça permet aussi de voir assez facilement si on a voté ou pas. Par exemple, ça c'était le premier poste du CIBOOC, c'est mesure de pente sur le terrain avec des bâtons de ski. Voilà, la première idée qui a été, la première orientation qui a été développée dans le CIBOOC.